Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette 12e ou 13e émission Livre en Lutte. Aujourd'hui, le sujet, c'est les femmes à Hollywood. En fait, on va surtout parler d'un livre qui est sorti en janvier de cette année par Hélène Frappa, qui s'appelle « Trois femmes disparaissent ». Donc l'histoire d'une généalogie assez maudite, il y a un petit côté tragédie aussi. Donc c'est l'histoire de Tippi Hedren, de sa fille Melanie Griffith et de sa fille Dakota Johnson. Donc nous accueillons pour ça Hélène Frappa. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Alors Hélène, on va vous présenter. Alors vous êtes une grande cinéphile et une grande critique de cinéma. Ça a commencé très tôt, je crois. Donc vous avez collaboré à La Lettre du Cinéma, au Cahier du Cinéma, aux Inrecuptibles. Vous avez signé des essais sur Rivette et Rossellini. Là, c'est votre 9e roman. Vous avez traduit des livres de l'anglais et de l'italien, dont un livre d'Adorno. Adorno, qui a beaucoup inspiré les situationnistes. Peut-être que ça joue un petit peu dans votre façon d'écrire, je ne sais pas.
Alors, je dois dire que s'il faut choisir parmi les situationnistes, moi, je choisirais quelqu'un que j'admire énormément, sur qui j'avais fait il y a longtemps, quand j'avais une émission de cinéma sur France Culture, qui s'appelait Rien à voir, une émission, et qui est malheureusement très oublié, qui est Marco. Marco, celui qui a vraiment, complètement influencé Debord et Godard, d'ailleurs, aussi. Et qui ensuite qui n'a cessé de se réinventer à travers toute une pensée du théâtre, de l'écriture, qui a fait dans les années 60 la pièce, qui est devenue un film ensuite, qu'il a réalisé, Les Idoles, avec toute une bande de jeunes acteurs qu'il a découverts, Bulogier, Jean-Pierre Calfon, Pierre Clementi qui se trouve être un cousin de ma mère d'ailleurs. Et voilà, donc s'il faut remonter, alors j'ai lu beaucoup, j'ai lu Debord beaucoup il y a longtemps, mais j'ai beaucoup aimé ses films. Mais c'est plutôt à Marco que je penserais. Dans l'inventivité, disons formelle, oui, dans cette manière de vouloir à chaque fois trouver une forme différente pour chaque livre.
Alors ce qui est drôle, c'est que je trouve que tant qu'on n'a pas un peu lu les situationnistes, Godard reste un petit peu difficile à comprendre. Pour moi, Godard, c'est difficile dans ses interviews. Je parle pas de ses films. Il y a le côté situationniste, à mon avis, qui est un petit peu important quand même. C'est ce que je ressens, en fait. Alors, ça ne s'arrête pas là. Vous avez aussi produit sur France Culture le magazine mensuel de cinéma Rien à voir. Et vous avez fait des fictions radiophoniques, dont une que je n'ai pas écoutée, c'est Marie Shelley. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'abord qu'elle a créé le monstre le plus connu de la littérature. Hélène, vous aimez les monstres ?
J'aime beaucoup les monstres, mais je pense qu'elle a créé un autre monstre dont on ne parle pas et qui pourrait bien être d'ailleurs le sujet d'un prochain livre, qui est l'écrivaine, en fait. La femme écrivain, parce qu'elle s'est créée elle-même. Alors, des femmes écrivains, il y en avait avant Marie Shelley. Cependant, cette figure du monstre de Frankenstein, donc généralement on l'appelle Frankenstein, mais Frankenstein c'est l'inventeur le savant fou, fou, pas si fou d'ailleurs, mais qui, hanté par la mort en fait, et par le fait de vouloir faire revivre les morts, va fouiller dans les cimetières et à partir de morceaux de cadavres qui sont assez littéralement les morceaux de tous les morts de Marie Shelley, à commencer par l'enfant qu'elle vient de perdre quand elle écrit ce texte, va produire cette créature, et en même temps elle s'invente elle-même à une époque où d'ailleurs l'éditeur refuse de la publier en disant c'est pas possible qu'une femme, en disant deux choses contradictoires, c'est pas possible qu'une femme ait écrit ce livre, petit 1, petit 2, ça devrait être interdit, on peut pas publier un texte d'une femme, donc il est publié anonymement Frankenstein dans sa première édition. Voilà, donc en tout cas oui, c'est quelqu'un, et je pense que le texte que j'ai écrit, qui était une fiction, ça s'appelle Marie Shelley, une fiction, qui est toujours en podcast sur France Culture, c'est un texte dont je suis vraiment heureuse et fière, et qui a à voir avec la forme du livre « Trois femmes disparaissent », puisque je suis entrée, en fait, j'ai essayé d'entrer dans la tête et dans la vie et dans le ventre, même on pourrait dire, de Marie Shelley, pour produire un monologue à partir d'elle, un peu en quelque sorte, ce que j'ai fait aussi, enfin c'est à mon avis ce que font les écrivains s'ils font vraiment le boulot dans chaque livre, essayer, comme faisait le commissaire Maigret, je pense au commissaire Maigret parce que c'est quelqu'un, j'ai été très très marquée par l'écriture de Simenon, mais aussi parce que relisant récemment, lisant d'ailleurs, je ne le connaissais pas, Maigret à New York, il y a un chapitre très explicite qui dit, à mon avis très explicitement ce que j'ai toujours ressenti, qui est que ces figures d'enquêteurs sont des figures d'écrivains, en fait. C'est-à-dire, ce sont des figures d'enquêteurs qui enquêtent moins sur des crimes ou des mystères qui sont résolus très rapidement que sur le vrai mystère et peut-être le vrai crime qui est celui de la condition humaine. Dans Trois femmes disparaissent, la forme m'est arrivée quand la figure de ma narratrice, qui est une détective, est apparue. Et sans doute, c'était une forme, une figure, un personnage très marqué par ces enquêteurs qui enquêtent, là en l'occurrence, elle enquête sur ce que c'est que la transmission familiale, ce que c'est qu'une généalogie familiale, ce que c'est que ce qu'on pourrait appeler une tragédie, c'est-à-dire en effet une figure de la répétition dans une lignée de femmes.
Alors, là je pense au film « Ville of Crime » de Lars von Trier, le premier où l'enquêteur devient presque le criminel qu'il recherche. Là aussi, il se projette beaucoup dans le criminel pour pouvoir. Il retrace son trajet physique. Je ne sais pas si vous connaissez.
Je l'ai vu il y a longtemps. J'ai pas une passion pour. Enfin, à vrai dire, j'aime pas beaucoup Lars von Trier, mais en revanche, ce que vous dites me fait penser à un cinéaste que là j'adore, hein, qui est Michael Mann, et notamment à ce film sublime Heat avec De Niro et Al Pacino, où il y a deux. En effet. Un double, un couple en fait, le vrai couple, puisqu'on voit bien que d'ailleurs les autres couples de chacun de ces hommes, l'un est flic, l'autre est criminel, leur couple dans la vie avec deux femmes ne fonctionne pas. En revanche, ils font couple hein, parce que, comme c'est dit à la fin explicitement, l'un devient l'autre. C'est-à-dire, il y a un moment où, à force que Al Pacino, donc le flic, hein, poursuive hein, cet homme hein, qui fait des braquages, hein, il finit par devenir cet homme. Il faut devenir sa proie, le chasseur doit devenir sa proie pour réussir à l'atteindre, en fait. C'est ce que dit Michael Mann explicitement dans son film. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, et sans doute qu'il y a à voir dans mon livre avec le fait que la, entre guillemets, solution, la seule, malheureusement pour elle, qui est donnée à ces femmes, c'est que, étant traquées par des prédateurs, elles n'ont à un moment d'autre choix que de devenir, de passer du statut de proie à celui de prédatrice à leur tour.
Alors, j'ai pas vu le côté prédatrice, mais bon, on en parlera tout à l'heure.
Je pense à, en l'occurrence, Tippi Hedren mettant sa fille, Mélanie Griffiths, dans les griffes des fauves, ce qui est une manière de faire revivre, on pourrait dire involontairement, mais de faire revivre à sa fille ce qu'elle-même a vécu.
D'accord.
Je dis ça évidemment sans aucun jugement, puisque comme le commissaire Maigret, je ne juge pas mes personnages jamais, sinon ça serait nul, hein, évidemment. Il n'y a pas de jugement, il y a juste une observation précise qui doit s'exercer sur ces existences.
Donc en fait, vous partez, j'ai l'impression, je n'ai pas encore une fois écouté cette fiction radiophonique, donc vous partez de quelques éléments biographiques de Marie Shelley, pour recomposer une histoire. C'est un peu ce qu'on appelle la synecdoque. C'est un petit peu ce qu'on retrouve avec Joyce Carol Oates
la
sur Blonde. Synecdoque, en fait.
Ah, j'ai entendu synagogue, intéressant.
Il y a un peu ce côté-là, non? Moi, quand j'ai lu donc, le livre Blonde, je me dis, tiens, il y a un procédé qui ressemble un petit peu à celui d'Hélène Frappa.
Alors, sans vouloir à chaque fois vous contredire, moi j'aime pas le livre de Joyce Carol Oates, parce que je trouve que, alors c'est un livre littérairement sans doute impressionnant, et c'est une grande écrivaine, hein, Joyce Carol Oates, il n'y a pas de doute, et j'aime beaucoup certains de ses livres. Celui-là, je ne l'aime pas parce que je trouve qu'elle a jugé, d'abord il y a du jugement pour moi dans ce livre, dans cette manière de rabattre Marilyn intégralement du côté de quelque chose de sordide, avec une forme de fascination pour la récurrence des avortements, pour quelque chose d'organique, mais dans un sens qui oublie, je pense, une part de Marilyn. En tout cas, c'est peut-être aussi parce que moi, depuis l'enfance, je me suis forgée ma Marilyn et que je l'ai pas reconnue dans le livre de Joyce Carol Oates. Donc peut-être que je suis pas la meilleure lectrice du coup pour ça, Mais c'est vrai que c'est un livre qui m'a laissé à l'extérieur. Donc, le travail, là, pour être un peu concret, parce que sinon, je pense que peut-être les auditeurs ne vont pas trop comprendre de quoi il s'agit. Effectivement, c'est l'histoire d'abord de... C'est une histoire, moi, que je portais depuis très longtemps. Alors, comme critique de cinéma, j'ai écrit ce qu'on fait habituellement, en tout cas jusqu'à il y a quelques années. Le boulot consistait surtout à écrire sur des réalisateurs, bon, surtout des réalisateurs, parce que l'histoire du cinéma est remplie de manière écrasante de réalisateurs et beaucoup moins de réalisatrices, même s'il y en a eu beaucoup. Enfin, beaucoup, il y en a eu aussi. Elles ont été moins visibles, mais il y en a eu. Mais là, il s'agit d'écrire sur les actrices, qui est pas du tout la même chose. C'est extrêmement difficile, hein, je dois dire, parce qu'elles produisent elles-mêmes une forme de mise en scène, les grandes actrices comme Tippi Hedren, mais en même temps, elles n'ont pas le droit de regard, littéralement. Hein. C'est-à-dire que historiquement, dans le cinéma, le regard il est porté par des hommes, hein, des réalisateurs, sur des femmes dont le boulot consiste à être regardées. Et c'est ce que mon livre raconte, mais c'est ce que mon livre raconte d'une manière extrême. C'est-à-dire que Tippi Hedren, qu'on connaît, enfin, qui est mondialement connu pour principalement pour deux rôles, qui sont celui dans Les Oiseaux d'Alfred Hitchcock et dans Pas de printemps pour Marnie, toujours d'Hitchcock, qui a été inventé au cinéma par Hitchcock. Donc Les Oiseaux, c'est son premier rôle, elle y est exceptionnelle, donc elle a un génie d'actrice, hein, c'est inouï qu'une femme puisse jouer de cette manière dans un premier rôle. Donc l'histoire, c'est effectivement que dans ces deux films, il y a eu de la part d'Alfred Hitchcock, c'était un peu su, mais pas tellement, et surtout personne n'a vraiment voulu s'y intéresser. Tippi Hedren a publié ses mémoires aux États-Unis, elles n'ont jamais été traduites en France, donc personne n'a eu envie de les traduire en 2016. Moi, je me suis beaucoup fondée sur ses mémoires donc que j'ai lues et que je traduis en partie de l'anglais. Elle a été, pour le dire clairement, torturée. Ça a été la... Elle a failli y passer, hein, c'est-à-dire qu'il semble assez clairement qu'Hitchcock ait voulu, à défaut d'avoir réellement pu la violer, même s'il a fait plusieurs tentatives de viol, probablement encore plus crade, hein, que ce qu'elle dit, elle emploie le terme hideux. Il a exigé d'elle, sous contrat, une disponibilité sexuelle totale. Il l'a façonnée entièrement, c'est-à-dire il a transformé ce que je disais au départ, ce regard, qui peut être un regard, bon, bah, qui fait partie du boulot, hein. Quelqu'un regarde, à travers le regard de la caméra, une femme qui est là, ou un homme qui est là, un acteur, une actrice, pour être regardé. Là, il a mené ça d'une manière tellement extrême que le regard en question est devenu un outil de prédation, un outil de plus que de maltraitance, un outil de meurtre, hein, puisqu'elle a vraiment failli mourir, hein, à force de recevoir les attaques d'oiseaux vivants. Il lui avait menti, à force d'être attaquée comme ça dans... C'est un sacrifice humain, en un sens mythologique, hein, au sens où dans à l'époque des grands mythes grecs, il y avait des sacrifices humains. C'est ce qu'elle a revécu à Hollywood. Donc l'histoire commence avec c'est le point de départ hitchcockien dans les années 60. Donc cette femme qui est rebaptisée par son père Tippi, petite fille. Et à partir de là, on pourrait se dire l'histoire est déjà assez dingue en elle-même et un peu connue. Sauf que là, ça va partir vers une autre histoire qui est totalement inconnue, en tout cas en France, mais même assez peu aux États-Unis, qui est la manière dont Tippi Hedren, pour échapper à cette prédation mortelle, va se réfugier, entre guillemets, auprès des grands fauves, c'est-à-dire d'animaux absolument non domestiqués, des lions, des tigres, des pumas, des léopards, des guépards, qu'elle va accueillir chez elle par centaines, une centaine quasiment dans sa maison, dans sa villa de Beverly Hills. Et puis finalement, elle va pendant 11 ans mener un projet qui est le projet le plus fou de l'histoire du cinéma, qui s'appelle Roar. Film donc tourné avec ces animaux-là, non domestiqués, pour de vrai, de même que les oiseaux lui étaient envoyés pour de vrai, et le tournage va se solder par à nouveau des sacrifices humains, les siens. Elle manque de mourir de la gangrène, elle est attaquée, mutilée, et ceux de sa fille également, Mélanie, la petite Mélanie qui a 13 ans à l'époque.
Alors, je voulais revenir donc sur ce qui s'est passé sur le tournage des oiseaux. Donc, vous avez écrit 7 une histoire sale que le monde entier avait sous les yeux, sans jamais vouloir la regarder en face. Et apparemment, il y a eu pas mal de déni dans le monde du cinéma autour de ce qui s'est passé là-bas. Donc en fait, au cours du tournage des oiseaux, il y a des vitres plastiques et puis une qui est en verre, donc elle se blesse un œil. Et puis il y a des oiseaux mécaniques.
Elle manque d'avoir un œil crevé, oui.
Oui. Et puis les oiseaux mécaniques sont remplacés par de vrais oiseaux. Ça devient plus dangereux. Les scènes sont répétées.
Mécanique. En fait, on lui dit qu'il va y avoir des oiseaux mécaniques. Il essaye de la violer. Il lui dit qu'il y a des oiseaux mécaniques. Elle refuse cette disponibilité sexuelle qui est un viol. Hein. Et à partir de là, les oiseaux sont vrais par centaines, mais tout a été prévu, puisque évidemment, on ne fait pas venir en deux secondes des centaines et des centaines d'oiseaux sur un tournage.
Et il faut expliquer que les scènes sont répétées et répétées, donc c'est une maltraitance, enfin c'est plus qu'une maltraitance, c'est une torture.
Elle finit quasiment dans le coma, un médecin vient et dit à Hitchcock, vous voulez la tuer en fait.
Même psychologiquement, c'est terriblement difficile de résister à ça. Et puis aussi, je pense, de se construire en tant qu'actrice, de développer son jeu au cours de tournage où tout se passe très mal quand même.
Bah c'est plus que ça, c'est-à-dire il faut revenir à peut-être aussi à une mythologie de la souffrance, mythologie de la souffrance de l'artiste, hein, que ce soit celle qu'il vit ou celle qu'il inflige, qui à mon avis est une mythologie très... pour le coup très chrétienne, très doloriste, hein, comme s'il fallait absolument souffrir pour créer. Je pense que c'est un peu une arnaque en fait, en réalité, parce que bon, dans les cas de souffrance aiguë, les artistes ne créent pas d'abord, hein, comme Van Gogh par exemple l'a dit clairement, et beaucoup de tournages, par exemple ceux auxquels j'ai pu assister, ceux de Jack Rivette, sur lequel j'ai écrit mon premier livre en 2001, étaient des tournages non seulement pacifique, mais sans, et non seulement sans aucune maltraitance des acteurs et des actrices, mais même avec une, comment dirais-je, une complicité au sens de l'amitié, au sens d'une fraternité, au sens d'un respect absolu de l'actrice, etc., sans aucun débordement, voilà. Donc là, il s'agit quand même d'autre chose, mais en même temps, il s'agit de quelque chose qui est, à mon avis, très... symbolique d'un type de rapport au cinéma, comme on le voit régulièrement. On l'a vu récemment encore avec l'histoire du film de Valeria Bonitedeschi. C'est une vieille histoire, c'est une histoire qui se prolonge, et c'est l'histoire donc de l'actrice traitée soit comme une prostituée au service du réalisateur, soit en tout cas de quelqu'un dont le corps qui n'existe que par son corps et dont le corps n'est pas respecté, le corps qui est l'outil de travail. C'est ça que ça raconte sous une forme, comme vous le disiez très justement, ce qui est la forme de la tragédie, donc une forme extrême, mais en fait qui nous permet de voir en grand ce que nous tous vivons, hommes et femmes réunis, parce qu'on ne peut pas isoler les femmes des hommes. C'est un type de relation entre les hommes et les femmes qui fonctionne en grand dans la société où on vit.
Voilà, parce qu'en fait, c'est Hollywood comme un lieu de domination et de pouvoir qui représente en fait tous les lieux de domination et de pouvoir qu'on retrouve dans la société, quoi.
Oui, oui, oui.
Mais en plus grand, quoi. Et alors je reviens à Hitchcock, donc sur le tournage du film Les Oiseaux, en fait il interdit au personnel d'adresser la parole à Tippi Hedren, il va interdire...
Non, il interdit aux hommes.
Aux hommes ? D'accord. Il va lui refuser la permission de recevoir le titre de l'artiste la plus prometteuse de l'année décernée par un magazine Photoplay. Il annule sa participation à une émission, le Tonight Show de Tony Carson.
À la plus grosse émission de télé de l'époque, oui.
C'est ça ? Ah bon. Et puis, elle est sous contrat.
Mais il l'annule, en fait, là où c'est beaucoup plus tordu, c'est qu'il l'annule en son nom. C'est-à-dire, elle est... D'abord, il commence par prendre ce prénom. Bon, quand elle est née, Tippi Hedren s'appelait Nathalie. Son père avait choisi ce prénom. Et puis finalement, il se ravise. Il se dit, bon, Nathalie, c'est un prénom un peu trop sérieux pour une petite fille. Je vais plutôt l'appeler Tippi. Il est d'origine suédoise. Donc déjà, ça commence avec une fille que son père choisit de rebaptiser petite fille. Donc à vie, elle va être une petite fille, la petite fille d'abord de son père. Ensuite arrive Hitchcock, qui est donc son premier maître, littéralement, puisque elle est mère célibataire, elle n'a pas d'argent. Elle a fait quelques pubs, notamment une pub pour un produit de régime. Hitchcock la repère, il montre l'écran, il dit « Find the girl », trouver la fille, comme dans Cendrillon. On lui trouve la fille, on sait très bien que en français, en anglais, la fille ça veut dire la pute. Hein. C'est historiquement, les filles au 19e siècle, c'était des prostituées. Donc déjà, c'est un mot très symbolique. Moi je suis écrivain, donc je m'intéresse essentiellement à la manière dont les mots sont employés. Là déjà, elle a le choix entre être une petite fille, être une fille, a girl. Elle n'est jamais une femme ou vraiment un être humain. Et il lui dit... Donc, elle signe le contrat sans même savoir avec qui elle le signe, sans même... Elle voit juste qu'elle va être payée beaucoup plus que ce qu'elle est payée pour faire des pubs. En même temps, c'est pas tant que ça. En plus, bon, à l'époque, les femmes sont bien moins bien payées, beaucoup moins payées à Hollywood que les acteurs, enfin les actrices que les acteurs. Elle accepte. C'est un contrat d'exclusivité pour 5 ans, où elle renonce quasiment à tous ses droits. C'est presque Faust signant avec le diable. En échange de quoi? Bon, en échange de ses $500 par semaine. Elle a quasiment pas de jours de congé. Elle a une demi-journée sur 6 mois. Elle va être effectivement maltraitée. Il a le droit de choisir tous ses vêtements, ses sous-vêtements, sur le tournage, en dehors du tournage. Il la fait suivre. Il va faire un masque qu'il va garder chez lui sans aucune fonction artistique, etc. etc. Donc, et en effet, il met une barrière entre elle et tous les hommes, y compris ceux avec qui elle a besoin de parler, le chef-op, les techniciens du son, enfin sur un tournage, ses partenaires masculins, à qui elle n'a pas le droit d'adresser la parole. Et... Donc elle devient la fille et il va lui dire, à partir de maintenant, votre prénom, il est enserré entre deux griffes sur mes génériques. Donc non seulement elle a été pour... Il veut marquer son territoire et il le marque... comme son père l'avait fait en la rebaptisant petite fille, le petite fille, il va mettre deux griffes et elle sera sur les génériques d'Hitchcock, pas sur les autres, entre guillemets, c'est pas des guillemets, c'est deux griffes, Tipeee entre deux griffes, qui va évidemment, ce qui va déjà annoncer toutes ces griffes d'oiseaux qui vont la blesser et la mutiler presque à mort.
Donc on arrive à la disparition. Donc Tippi Hedren, dans ses mémoires, explique qu'elle a tenté de fuir le regard dont elle était la proie. Donc c'est peut-être pas que Hitchcock, c'est aussi le spectateur.
Ah oui, non, c'est intéressant ce que vous dites. Oui, en effet, il y a un moment, je, en réfléchissant, ça faisait très longtemps que je pensais à ce livre, et je me suis dit, il y a quelque chose dans la fascination. Le sentiment de fascination, c'est un terme souvent qui est employé d'une manière positive par les gens, enfin les êtres humains. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que la fascination n'était pas un sentiment du tout positif. Ça n'a rien à voir avec l'admiration, la fascination, en fait. C'est-à-dire, dans l'admiration qu'on peut éprouver pour quelqu'un, pour un acteur ou pour quelqu'un, y a de la bienveillance, il y a du respect. Dans la fascination, il y a une forme de prédation. Et en effet, on sait bien d'ailleurs, on sait bien comment... et d'ailleurs, moi je cite un texte que j'adore de Lucrèce, texte très ancien, mais où il parle de cette fascination que peuvent avoir des gens, des gens qui sont sains et saufs et qui contemplent le naufrage d'un bateau qui est en train de se fracasser sous leurs yeux sur un rivage. Eux, ils sont à l'abri sur la falaise. Et qu'il est doux, dit-il, de regarder, c'est doux de regarder ce naufrage. Ça, ça a à voir avec la fascination, c'est-à-dire avec ce sentiment qu'un spectateur, en effet, et un spectateur face à une star, notamment à ces stars hollywoodiennes qui font tout tellement en plus grand, dont les visages sont tellement plus grands, qui ont l'air d'avoir des vies tellement enviables, et en réalité qui saignent beaucoup. C'est ce que ce livre montre, c'est que derrière ce qu'on appelle le glamour et tout, il y a beaucoup de sang qui est versé. Il y a aussi le regard du spectateur. Le regard du spectateur qui a envie aussi de savoir, de suivre l'actrice, de la regarder. Alors ça, on le voit beaucoup avec Mélanie Griffith. Elle va, à partir de 13 ans, subir des opérations de chirurgie esthétique. Pourquoi ? Parce que sur le tournage de ce film avec des grands fauves, elle est mutilée. Elle a notamment une fois dans une opération 53 points de suture sur le visage. Les animaux, les lions avec qui elle dort aussi dans leur maison vont la mutiler évidemment en pleine nuit. Bah, c'est des animaux sauvages, comme le dit Tippi Hedren. On ne peut rien attendre d'autres que d'être sauvages. Donc ces opérations commencent, elles vont se prolonger ensuite. Et Mélanie Griffith, au fait de sa carrière extraordinaire dans les années 80, avec De Palma, avec plein de réalisateurs avec qui elle tourne à l'époque, va se livrer à des opérations de chirurgie esthétique qui vont être beaucoup scrutées aussi par les spectateurs, beaucoup jugées, beaucoup moquées, qui vont fasciner. Et dans la fascination, il y a toujours une part de répulsion. Il y a toujours cette idée d'observer quelqu'un en danger en étant soi-même à l'abri. C'est un sentiment un peu moche. Alors là, je juge le sentiment. Mais il fait un peu moche. Pourquoi ? Parce qu'il y a une part de prédation là-dedans aussi. Et ça, en effet, vous avez tout à fait raison de le dire. Il y a un autre regard sous celui d'Hitchcock et qui accompagne celui d'Hitchcock. Parce qu'Hitchcock, c'est un génie, Hitchcock. Moi, j'adore les films d'Hitchcock, hein, que ce soit clair. Je ne les jette pas au panier. Je pense que c'est des films très tordus qui ont été réalisés par un cinéaste qui était un violeur, qui, sans aucun doute, d'un point de vue moral et pénal, aurait mérité d'être condamné. Seulement, la complexité, le mystère, c'est que ces films-là, ils sont faits, en tout cas les deux qu'il a fait avec Tippi Hedren, du point de vue de la femme violée et attaquée. C'est ça qui est très étonnant et pour le coup assez fascinant dans ces films-là, c'est qu'il se dédouble, Hitchcock. Le regard du spectateur, oui, il est là tout le temps et c'est un regard, on le sait bien, que beaucoup de stars ont disparu. Le boulot d'acteur et d'actrice, c'est d'apparaître et de disparaître. Apparition, disparition. Ils ne font que ça, les acteurs. Au point qu'on a l'impression, quand ils ne jouent pas devant nous dans une salle de cinéma, qu'ils ont disparu presque, qu'ils sont morts. Et au contraire, quand ils sont morts il y a longtemps, exemple Marilyn dont vous parliez, on les voit au cinéma et quand c'est des acteurs aussi exceptionnels que Marilyn, ils sont avec nous, ils vivent le temps de la projection. Donc ça, c'est ça qui est fascinant, pour le coup, dans le travail de l'acteur. C'est de disparaître en permanence et de réapparaître par notre regard aussi, de spectateur.
Donc deux choses. Donc sur Mélanie, il y a cet aspect, le corps de l'actrice appartient au spectateur.
Appartient, non.
Enfin, alors, on a cette tendance, je veux dire, quand on critique, vous avez écrit il y a 20 ans, ce bashing à l'endroit des actrices refaites, je le trouve dégueulasse. C'est un petit peu ça aussi, c'est le spectateur qui se permet de critiquer l'actrice qu'il veut conserver d'après l'image que lui a retenue et qui lui convient. Il ne veut pas que ça change et il y a ce côté un peu particulier aussi.
Vu qu'on est à Radio Libertaire, rappelons les classiques, hein, je ne vais pas rappeler Proudhon et tout ça, mais enfin, en l'occurrence, non, il n'y a pas de propriété, il n'y a pas de droit de propriété. Ce qu'a fait Hitchcock, c'est d'inscrire un droit de propriété sur le corps, sur l'âme, sur l'existence entière de Tippi Hedren, au point qu'il lui donne comme prénom pour son personnage des oiseaux, Mélanie, qui est le prénom de sa fille. Il lui dit, de toute façon, vous êtes obligé de me céder parce que vous avez une famille à nourrir, votre fille et puis aussi vos parents. Il va offrir à sa fille Mélanie un petit cercueil avec dedans une poupée miniature qui reproduit sa mère. Donc il veut déjà aussi posséder la fille comme il possède la mère. Ça, c'est un droit de propriété absolu, mais qui est dans un sens d'une dictature, en fait, hein, du non-respect absolu de la liberté de l'être humain. Donc pourquoi les acteurs ne seraient pas aussi respectés dans leur liberté et pourquoi est-ce que les spectateurs eux-mêmes devraient reproduire ce regard-là ? Donc oui, alors ce que vous citez, c'est une interview que j'avais faite où j'employais ce mot de dégueulasse, mais effectivement, il y a aussi quelque chose, il faut que chaque spectateur s'interroge et à travers notre relation aux acteurs comprenne que ce qui est en jeu, c'est notre relation aux gens autour de nous aussi bien, à la manière dont nous traitons les êtres humains. Hein. Parce que moi, je suis... Enfin, comment dire, mon boulot, comme je le disais, c'est d'observer les singularités. Donc, d'observer comment chacun traite les gens autour de lui aussi. Là, on a un modèle terrifiant d'une forme de dégradation totale de l'autre, oui.
Donc on en arrive à la disparition. Vous aviez écrit « Le fantasme de toute actrice, c'est disparaître en continuant à exister ». C'est un peu aussi le thème de ce livre, où les femmes disparaissent tout en continuant à exister. elles disparaissent activement, je dirais.
Elles sont disparues, oui, ça c'est ce que dit, c'est ce qu'a écrit mon éditrice Myriam Anderson en quatrième de couverture, et je trouvais ça assez beau comme manière d'expliquer, parce que c'est vrai qu'au début je me suis dit, bon, est-ce que les lecteurs vont se demander, mais au fond elles sont vivantes, ces trois femmes, elles sont vivantes, hein, y compris Tippi Hedren, qui a 93 ans, qui est toujours en grande forme, elle habite toujours au milieu de ses lions et qu'elle fait visiter dans sa réserve. Alors ça veut dire quoi qu'elles ont disparu? Bon, il y a beaucoup de manières de disparaître. En réalité, c'est ce que ces femmes nous montrent. Et puis, il faut essayer de penser de manière un peu plus complexe qu'une pensée un peu binaire qui dirait qu'on est soit vivant, soit mort. C'est plus compliqué que ça, en réalité. Et je pense que la littérature a pour fonction, la littérature qui écoute tellement les voix des disparus, hein, alors des morts, qui les fait parler. Hein, vous parliez au début du texte que j'avais écrit sur Marie Shelley. C'était une manière, en effet, quand j'écris ce texte avec Marie Shelley, pas sur Marie Shelley, mais avec elle, elle vit pour moi entièrement. Et j'espère la faire vivre au présent. Le texte était au présent, d'ailleurs, pour ceux qui écoutent ce texte. Et puis on sait bien, c'est ce que nous montrent les fantômes, que beaucoup de morts continuent à être très présents, c'est-à-dire à nous apparaître. Donc la notion de disparition, elle est vraiment complexe. Là, effectivement, elles sont à un moment chassées, activement, du système hollywoodien, et en même temps, elles-mêmes vont fuir pour sauver leur peau.
Est-ce que vous nous liriez la page 164 ? J'ai dû la corner. C'est la fin de la page.
Elles fuient parce qu'elles n'ont pas de réponse à la seule question que l'homme leur pose. Veux-tu m'épouser ? Elles fuient parce que l'homme qui les épingle dans un livre, dans un film, n'a pas de réponse à la seule question qu'elle lui pose, être ou ne pas être une actrice.
Voilà, c'était... Alors, il faudrait reparler un petit peu du style de ce livre. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a un style très poétique. Alors, la poésie, dans le sens du moyen de dire les secrets, d'avancer, il y a souvent... Le style évolue un petit peu au cours du livre. On passe une ligne entre chaque petit paragraphe. On a une continue à un moment qui est beaucoup utilisée au cours des chapitres. Et donc, l'auteur ou l'autrice s'appelle elle-même la détective. Et on la voit qui imagine une rencontre où elle est une sorte de Columbo, et il y a donc cette enquête menée par l'autrice. C'est très original et c'est très très intéressant.
Ben c'est, je dois dire que il y a eu un article sur ce livre qui m'a beaucoup éclairée. C'est un livre qui, alors c'est le cas de tous les livres, mais là c'est encore plus fort, et je dois dire que ça me remplit d'une grande joie, excitation de penser. Il est beaucoup prolongé par ses lecteurs, c'est-à-dire aussi bien les journalistes, enfin comme vous en ce moment, qui en parlaient très bien, et donc ça me permet moi-même de comprendre ce que j'ai écrit, et puis les lecteurs qui peuvent réagir, écrire, les libraires et tout. Et c'est vrai que l'un avait écrit finalement, puisque c'est un livre qui correspond peut-être à la forme très ouverte qui existe dans la littérature américaine, moins en France, qui s'appelle la non-fiction, la non-fiction, c'est-à-dire une forme vraiment qui peut accueillir le roman, le récit, l'enquête, le matériau documentaire et aussi bien une invention romanesque. Il disait, puisque c'est une enquête, pourquoi ne pas mettre effectivement explicitement un personnage d'enquêteur ? Moi, ça m'est apparu en effet que ma narratrice, je voulais pas que ce soit écrit à la première personne. Au début, ça l'a été à un moment, mais ça ne collait pas. Je trouvais que ça réduisait beaucoup l'ampleur du regard, juste, enfin le champ du regard, que c'était pas assez universel pour le dire simplement, qu'il y avait quelque chose qui ne cadrait pas. Et quand ma détective est arrivée, je dis ma détective parce que c'est la troisième personne, c'est une narratrice, donc c'est pas moi. Alors c'est évidemment l'auteur est toujours dans son livre entièrement, évidemment, mais bon, il y a une narratrice. Elle se prend en effet pour Columbo. Elle est assez, elle a été marquée aussi beaucoup par les romans et la méthode des enquêteurs d'Agatha Christie, particulièrement, ça il n'en est pas question, mais Miss Marple, qui pour moi est une grande figure d'écrivain aussi, hein, d'écrivains. Alors Maigret, il n'aime pas trop les déductions. Il dit qu'il n'aime pas les déductions. Miss Marple, elle aime bien les déductions. C'est-à-dire, elle, à partir de ce qui se passe dans son petit village, elle va pouvoir résoudre n'importe quel mystère, en réalité. Parce que, au fond, la condition humaine étant un peu la même partout, c'est ce que raconte ce livre aussi. Hein. C'est-à-dire que ce qui nous éloigne, évidemment, en apparence de ces femmes, c'est-à-dire la richesse, les énormes villas, le décor complètement luxueux, Beverly Hills, tout ce qui peut en effet fasciner, faire rêver, faire rire, parfois même les lions enfin évidemment personne n'a, à ma connaissance en tout cas de mon entourage, n'a une gigantesque villa peuplée de lions, de fauves, etc., à part que ça serait complètement interdit, à part à Hollywood, mais bon. En réalité, ce que ça raconte, ce sont des histoires de transmission, de filiation, de liens entre les mères et les filles, de la manière dont une femme peut se constituer comme fille, fille de sa propre mère, comme mère de sa propre fille, comme femme qui travaille face à quelqu'un qui est son patron, en l'occurrence, hein, et qui va essayer de la posséder entièrement, etc. Tout ça, ce sont des questions qui sont aussi bien... aussi forte à Paris 11e où on est en train de parler là qu'à Beverly Hills en vrai, mais je sais plus si j'ai répondu vraiment à votre question. La détective, alors... oui, en tout cas c'est la forme, c'est l'essentiel, hein. La forme, c'est ce qui, je vais dire, c'est l'éthique d'un livre pour moi. C'est elle doit être différente à chaque fois, pas parce que c'est une règle, mais parce que sinon on fait mal le boulot. On voit bien ça avec Joyce Carol Oates, hein, et alors, là où elle est très impressionnante, c'est qu'elle arrive à plusieurs fois par an à produire une forme différente. Alors elle a plusieurs formes dans son œuvre comme ça, mais c'est vrai que ça, c'est pour moi le travail du vrai écrivain, c'est que chaque livre s'invente une forme. Jacques Rivette m'avait dit un truc qui m'avait marqué sur un de ses tournages. Il m'avait dit qu'il avait un corps différent par tournage, qu'il n'était pas le même, en fait. Il n'avait pas le même corps, il pouvait être plus sautillant, bondissant, plus calme, plus tranquille. C'était autre chose selon le film. C'est pareil pour un roman, je pense.
Mais on revient quand même à la sensibilité de la cinéphile qui sait voir les choses et qui aime établir des rapports et des correspondances entre un plan et des éléments biographiques ou du caractère du réalisateur. C'est très cinéphilique, ça aussi, cette façon d'établir des rapports et d'aller bien au-delà du plan et du plan, voir ce qu'il y a. Du plan au cinéma.
Ah. Oui, je pense que moi, j'écris pas sur le cinéma. J'ai jamais écrit sur le cinéma. De ce point de vue-là, j'ai toujours été une cinéphile très bizarre. Et je dois dire que ce matin, j'ai lu un article qu'a écrit Michel Simon, le directeur de la revue Positif. Moi, j'étais plutôt dans la bande des Cahiers du cinéma, mais sur le livre. Et ça m'a vraiment touchée de voir que finalement, un texte qui peut paraître aussi bizarre pour un point de vue cinéphile plus traditionnel pouvait être lu avec une telle empathie. C'est vrai que moi, j'ai toujours écrit dans le cinéma. Parce que depuis que je suis enfant, j'ai vécu dans les livres et dans les films. C'est même ce qui m'a sauvée littéralement de plein de choses quand j'étais petite. Et à partir de là, ça a été des maisons imaginaires ou pas imaginaires, mais que je me construisais. Donc ça, c'est très particulier, déjà, depuis le départ. Et ça a à voir avec la littérature. Mais c'est vrai qu'après, c'est particulier aussi parmi mes confrères écrivains, parce que peu ont ce lien aussi fort que j'ai au cinéma et que je continue à voir. Hein. Je vois cette semaine, j'ai vu comme ça déjà deux fois le film de Steven Spielberg qui est sorti, et je vais le voir d'ailleurs, hein, je vais le revoir encore. J'habite dedans. Bon. Après, ce qui est important, c'est le mot lien dans ce que vous dites. C'est-à-dire, je pense que le travail de l'écriture, ou le travail du cinéaste, enfin c'est ce que fait Spielberg là dans son film, c'est ce qui m'a beaucoup touchée, c'est de faire des liens, de créer des liens, pas des liens arbitraires. Pas des liens superficiels du genre « Ah oui, tiens, comme peuvent faire parfois les cinéphiles qui sont très, ils ont une sorte d'érudition qui peut parfois fonctionner un peu à vide aussi. Ah oui, tiens, le chapeau là de tel personnage. » Moi, ça me fait rire en même temps, mais ah, c'est en 43 dans ce film, on le retrouve en 47 dans tel autre film. Moi, c'est pas comme ça que j'écris, même si cette culture-là, je l'ai, hein, un peu comme ça, obsessionnelle. Mais c'est vraiment l'idée du lien au sens de l'être humain, en fait. C'est-à-dire, moi, c'est ça qui m'intéresse. À mon avis, c'est la seule fonction et le seul but de la littérature. Hein. C'est pour ça que je citais Simenon tout à l'heure, ou Maigret, parce que c'est ce qu'il fait. Enfin, c'est un génie, Simenon, hein. De ce point de vue-là. C'est-à-dire que on est dans une histoire où il n'y a pas de lien. C'est une tragédie. La définition de la tragédie, c'est qu'il n'y a pas de lien. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dire que Œdipe a un lien avec sa mère? Ben, pas vraiment, en réalité. Pas du tout, même. Sinon, ça n'aboutirait pas, l'histoire d'Œdipe, à cette tragédie qui est qu'il va se retrouver à commettre cet acte contraire à toute loi humaine, qui est de coucher avec sa mère, et de devoir se crever les yeux, ce qui montre assez clairement que ce geste-là, il n'a pu le faire, cet acte-là, il n'a pu le commettre, ce crime-là, il n'a pu le commettre, que parce qu'il était aveuglé. Donc ça, c'est la tragédie. C'est un monde sans lien. C'est l'histoire de Médée, par exemple. Il ne s'agit pas de juger les personnages, il ne s'agit pas de dire « Ah ben oui, bon, Médée, elle n'est pas très sympa avec ses enfants, ça c'est... » Enfin, vous voyez, dit comme ça tout de suite, ça paraît complètement idiot et ça fait rire même. Ce n'est pas le sujet. Là, c'est des femmes, en effet, elles sont prises dans une tragédie qui les dépasse. Elles sont intelligentes, elles ne sont pas du tout méchantes, elles ne sont pas... Elles sont agies, en quelque sorte, par cette histoire qui a commencé bien avant elles, bien avant elles. Évidemment, hein, l'histoire de l'exploitation des femmes à Hollywood, elle a commencé bien avant Tippi Hedren. Elles sont prises là-dedans. À ce moment-là, arrive une détective, donc ma narratrice, et puis moi, comme autrice du livre. Et moi, mon boulot, c'est de créer des liens, de faire une chambre d'écho, de réhumaniser tout ça. De lier l'histoire de la grand-mère à l'histoire de la fille, l'histoire de la fille à l'histoire de la petite fille, de lier cette histoire à des éléments de l'histoire de la détective, mais aussi bien à des éléments de l'histoire du lecteur. Le but, c'est que chaque lecteur puisse lui-même avoir un lien avec cette histoire-là, pas seulement au sens où on dit souvent l'identification, mais au sens fort de ce terme qui est l'idée d'une humanité commune. Remettre de l'humanité là où clairement Hitchcock l'a. Le crime d'Hitchcock, c'est qu'il a tué l'humanité dans cette histoire. Et puis ensuite, ça s'est reproduit jusqu'à Dakota Johnson, quand, en tournant dans Fifty Shades of Grey, 50 nuances de Grey, elle va, à son insu, et c'est ça la tragédie, reproduire dans la fiction ce que sa grand-mère a vécu sur le tournage des Oiseaux. Le même contrat, le même asservissement, la même absence totale de consentement, la même dégradation, etc., etc. Donc ça, c'est la tragédie. Et il faut arriver, il faut que quelqu'un arrive et puisse, comme fait Maigret quand il enquête, et qu'à la fin, il dit que le but, c'est pas d'arrêter quelqu'un. Le but, c'est que quand il a vu l'enfant en chacun de ses suspects, alors l'enquête est résolue. Alors oui, le criminel est démasqué. Mais surtout, l'être humain a été... non pas démasqué, mais a été éclairé, en quelque sorte. C'est ça la littérature. Pour moi, c'est ça la littérature.
D'accord, donc c'est va-et-vient entre, effectivement, ce qu'ont vécu les actrices, ce que l'enquêtrice aura pu vivre, et puis des thèmes plus généraux, et puis tout ce que nous aura touché, et ce que l'on vit nous-mêmes. Alors, Dakota Johnson, c'est vrai que son rôle le plus important, c'est dans 50 nuances de gris, où en fait, elle est complètement dominée par un bonhomme, et il y a des scènes qui sont assez frappantes, qui apprennent effectivement, qui font penser assez terriblement à ce qu'a vécu Tippi Hedren.
Oui, c'est identique, c'est-à-dire c'est un film qui, moi, m'a intéressée dès sa sortie. Je dois dire, très franchement, la première fois que je l'ai vu, ça m'a vraiment fait carrément rire, parce qu'il y a quelque chose d'assez... quand on n'est pas... Comment dire? Il y a quelque chose à la fois totalement grotesque dans ce film, c'est-à-dire cette manière dont cette jeune fille, jeune étudiante en lettres, évidemment pauvre, va se soumettre entièrement au sadisme. Elle n'est pas du tout branchée SM. Le personnage incarné par Dakota Johnson, c'est pas une romance SM. Parce que bon, une romance SM, pourquoi pas. Enfin, il n'y a pas de consentement, en fait, pour le dire clairement. C'est-à-dire que c'est une jeune fille qui va, dans un schéma à la Cendrillon, et ça c'est un terme qu'emploie sa grand-mère, Tippi Hedren, qui dit qu'elle a été elle-même très marquée par ce schéma-là. Et le livre, Trois femmes disparaissent, il est beaucoup rythmé par ce schéma des contes. Cendrillon, La Belle au bois dormant, Barbe bleue, tout ça c'est des histoires qui reviennent en permanence et qui ont structuré, qui structurent les enfants, qui structurent les petites filles particulièrement. Et on voit bien dans 50 Shades of Grey, donc 50 nuances de Grey, Grey étant ce milliardaire, multimilliardaire, parce qu'évidemment il faut qu'il soit très riche, elle, je dis évidemment, évidemment dans un schéma capitaliste où la jeune fille est jeune évidemment, a sa jeunesse, son corps et sa liberté à offrir entièrement à quelqu'un qui va jouir de la dominer, de la faire souffrir, de la battre. Et le film observera la souffrance totale de cette jeune fille qui vraiment ne prend pas son pied, pour le dire clairement, du tout. Le spectateur non plus, je trouve, mais voilà. Donc ce qui est pour le coup fascinant dans cette histoire-là, c'est que ça passe par un contrat. C'est-à-dire que c'est un homme d'affaires, hein, et donc il aime bien faire signer des contrats dans lesquels il exploite complètement ses employés. Donc il va lui faire signer un contrat, et le contrat reprend à l'identique le contrat qu'Hitchcock a fait signer à Tippi Hedren. Donc là, on a un retour à l'identique. On a une répétition sous une forme dégradée, dégradante, de l'histoire de la grand-mère.
D'accord. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle ou triste, c'est que Melanie Griffith elle-même n'a appris la véritable histoire de ce qu'avait vécu sa mère que très tardivement, en fait, quand est sorti un film qui retrace l'histoire de ce qu'a vécu Tippi Hedren sur les oiseaux. Donc elle avait largement plus de 20 ans ou 30 ans, je ne sais pas.
Oui, alors c'est compliqué un peu de... Tippi Hedren a parlé, enfin elle a parlé, elle a écrit, et particulièrement à partir de ses mémoires, donc qui datent de 2016 aux États-Unis, un an avant MeToo, il y a eu, elle a donné pas mal d'interviews, elle s'est exprimée sur les viols d'Hitchcock, hein, clairement. Elle a fait aussi des interviews en famille, hein, avec Mélanie, sa fille, et Dakota, sa petite fille. Donc une parole a été. Une parole s'est exprimée. La parole se perd, en fait. Le langage se perd d'une génération à l'autre. Et Mélanie a peu parlé. Bon, moi, je suis assez étonnée, comme souvent d'ailleurs, du fait qu'aucun journaliste n'ait jamais eu l'idée, pourtant, à mon avis, assez évidente, de l'interroger sur ce qu'elle a subi, par exemple, avec les fauves, hein, dès l'âge de 13 ans, qui est quand même une expérience complètement inouïe. Et Dakota Johnson, pareil. Hein, elle s'est créée, alors après avoir eu une jeunesse aussi wild, hein, aussi sauvage que celle de Mélanie, sa propre mère, elle s'est créée ce personnage, ou Hollywood plutôt lui a créé ce personnage extrêmement lisse. C'est une très bonne actrice, Dakota Johnson, pas vraiment reconnue à sa juste valeur à mon avis, mais elle joue en effet dans des rôles où elle ne joue quasiment que dans des remakes, parce qu'elle-même est un remake en fait, elle-même recommence l'histoire de sa mère et de sa grand-mère. Donc elle a joué dans un remake de Suspiria, le film de Dario Argento. Elle a joué elle joue les doublures, elle joue les revenantes. En fait, c'est une histoire où il y a beaucoup de revenantes, de femmes qui reviennent et qui font et qui rejouent plus ou moins sans le savoir, souvent sans le savoir, l'histoire des femmes qui les ont précédées à la génération d'avant.
Alors, je vais revenir un petit peu sur Marilyn. Donc je voulais citer un livre qui est un roman graphique de Luz qui s'appelle Hollywood Menteur et qui est terminé par une postface de Virginie Despentes qui raconte deux trois choses. Donc elle dit bon, ce que Marilyn incarne, c'est l'agneau, c'est le sacrifice, et elle raconte que Luz cherchait une photo de Marilyn Monroe en colère. Ça n'existe pas. Donc Virginie Despentes a dit qu'elle a une quinzaine de livres de photos de Marilyn. Donc Luz finit par représenter Marilyn en colère, et le texte de Virginie Despentes se termine en disant que c'est la colère de l'agneau, la colère de la sainte martyre, la colère de l'enfant, la colère de tous les absents à qui on a arraché la parole.
Alors l'agneau, je trouve ça un peu cateau à mon goût, j'ai pas une passion pour les métaphores cateaux, et je les connais mal. Je pense que si je puis me permettre, bon, j'aime beaucoup tout ce que dit Virginie Despentes, mais je trouve ça un peu naïf en fait, parce que si on connaît bien ce qui est mon cas, l'histoire de Marilyn, la colère de Marilyn, elle est là en fait dans toute sa carrière. Et elle semble ignorer apparemment, Virginie Despentes, une chose qui est quand même essentielle, et pour ça c'est important de bien connaître l'histoire du cinéma, parce qu'elle est très importante, l'histoire du cinéma, pas seulement pour comprendre le cinéma, mais pour penser plein plein de choses. C'est l'art le plus moderne, le cinéma, le plus contemporain. L'art contemporain, c'est pas l'art contemporain, c'est le cinéma depuis le début. En plus, c'est du business. C'est, ça doit marcher. Hein. En tout cas, si on se réfère à ce qui est le modèle dominant, c'est-à-dire le modèle hollywoodien. C'est un modèle qui s'importe. Donc c'est un modèle colonial presque, on pourrait dire. Hein, qui, alors, moi, je le dis, moi, j'adore Hollywood. Hein, donc c'est pas, je le dis même pas dans un sens du tout critique. Mais c'est un modèle qui marque absolument tout le monde. Or, dans ce modèle-là, on voit bien que à partir dès l'origine d'Hollywood, où beaucoup de femmes en fait étaient présentes et ont été ensuite oubliées, et ensuite si on pense à des figures essentielles comme celle par exemple d'une des plus grandes actrices du XXe siècle qui est Barbara Stanwyck, il y a des femmes qui comprennent, des actrices, que le seul moyen d'avoir du pouvoir est donc d'exercer cette colère. Elles sont en colère en effet, comme Marilyn l'a été. Elles sont en colère parce qu'elles sont sous-payées, elles sont payées beaucoup moins que leurs homologues acteurs masculins. Elles ont des contrats d'exclusivité comme Tippi Hedren ou comme Marilyn qui font qu'elles sont achetées par les studios et que si elles ont des propositions d'autres films, d'autres réalisateurs, si elles-mêmes aiment certains réalisateurs et voudraient travailler avec eux, elles n'ont pas le droit. Elles ne sont pas augmentées. Elles touchent une somme misérable par rapport au profit que génèrent les films. Donc tout ça produit une colère, qui a été celle de Marilyn, qui s'est exprimée dans ses textes. On la connaît en réalité, la colère de Marilyn, elle l'a exprimée. Et ça n'a rien à voir avec le petit agneau de Dieu ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elles font à ce moment-là? Très concrètement, il y a une seule solution, c'est devenir productrice. Elles le font. Elles essayent. Moi, j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur Hedy Lamarr, une autre figure passionnante, qui était, en son temps, comme Mélanie Griffith, comme Tippi Hedren, comme Marilyn, sacrée plus belle femme du monde, titre qui ne servent ensuite qu'à les en destituer. Elle a fait ça aussi. Elle a produit. Marilyn, à un moment, elle vient à New York, elle quitte Los Angeles, elle part à New York, et là, elle crée sa société de production. Elle va essayer de reprendre le pouvoir de cette manière. Elle va être cassée par les majors, hein, c'est-à-dire les grands studios, qui vont faire en sorte que son autonomie, son indépendance, et justement la manière dont concrètement cette colère peut donner quelque chose de très concret qui va faire qu'elle va gagner plus d'argent. Parce que c'est ça dont il est question. Hein. Il ne faut pas... Petit agneau, petit enfant, tout ça, c'est des trucs un peu, des images un peu... Bon, moi, que j'aime pas trop, mais qui sont un peu vagues. Parlons d'argent, il n'y a que ça qui compte, c'est la seule réalité. Combien les gens gagnent leur vie, comment ils sont exploités, comment le capitalisme réussit à introduire, y compris en France au moment où je parle, 25% de différence de salaire entre les hommes et les femmes. C'est ça le réel. Marilyn, elle en a conscience, c'est une femme d'une intelligence hors du commun, elle a conscience de tout ça, elle est très à gauche en plus, hein. elle est marxiste Marilyn, elle a lu les textes, donc elle essaye de reprendre la main. Concrètement, d'une manière très, comment dirais-je, d'une manière très belle par rapport à sa colère, d'essayer d'en faire quelque chose de concret. Donc elle crée sa maison de production. Elle va se faire arnaquer, je dois dire, par Green, le photographe avec qui elle va créer sa maison de production. Et puis elle va être rattrapée par les studios qui vont faire en sorte de faire échouer cette tentative-là. Barbara Stanwyck a fait la même chose. Ida Lupino a fait la même chose. Actrice elle-même devenue réalisatrice qui va faire 7 films géniaux et qui va elle-même essayer de les produire. Hedy Lamarr va faire pareil, elle va se ruiner. Donc ça, c'est dans l'histoire d'Hollywood. Attention, c'est-à-dire, c'est pas une histoire juste de bourreaux et de victimes. Hein. C'est beaucoup plus complexe. Il y a eu des tentatives, je dirais, révolutionnaires hein, de ces femmes pour essayer de reprendre, de sortir de cette espèce de tragédie écrite avant elles, pour devenir auteurs hein, de leur propre carrière, de leur propre vie. Donc ça, il faut vraiment avoir ça en tête. Y compris quand on parle de Marilyn.
Très bien, donc on a encore quelques minutes. Est-ce que vous aurez une conclusion à faire sur le livre avant qu'on parle peut-être un peu de votre actualité?
Conclusion, non, c'est très ouvert. Enfin oui, conclusion, on peut dire que je peux peut-être lire un passage à la fin, je ne sais pas.
Donc pendant ce temps-là, en fait, alors je vais...
Vous avez envie que je lise un passage précis?
Non, pas particulièrement, j'ai pas choisi.
Je peux lire juste le début de la fin, si je puis dire, hein, le dernier chapitre, pour pas tout spoiler, mais ça s'appelle L'art de la fugue, parce qu'il y a une question musicale aussi là-dedans, c'est-à-dire c'est des femmes qui fuient pour survivre, et puis en musique, il y a depuis plusieurs siècles un motif très très géométrique, qui est celui de la fugue, qui m'a inspiré beaucoup... Et qui vient d'ailleurs, qui m'a été beaucoup expliqué par quelqu'un qui nous a réunis, hein, qui nous réunit aujourd'hui dans ce studio, qui est un ami commun qui s'appelle Marc Sandberg, à qui je rends hommage. Donc je vais lire le début de l'art de la fugue. 2022, bureau de la détective. L'enquête s'achève. Il faut dire adieu aux revenantes. Loin, très loin, dans les villas hollywoodiennes peuplées de grands chats, les trois actrices jouent à être un prédateur ou bien sa proie. Existe-t-il un autre jeu, une autre fugue, que leur chant polyphonique qui imite la première voix ? Je dirais que la conclusion, s'il y en a une, parce qu'il n'y en a jamais vraiment, la conclusion c'est toujours l'autre, le prochain livre qui va s'écrire. Les tragédies, elles n'ont pas de conclusion. C'est-à-dire, la seule conclusion d'une tragédie, c'est qu'il va y avoir ensuite une autre tragédie, en fait, et qu'on n'en sortira pas. Donc la littérature, elle permet peut-être de faire... pas une conclusion, mais un dénouement. J'aime beaucoup le terme de dénouement, que j'avais employé dans mon premier livre sur Jacques Rivette, parce que dedans, il y a l'idée que des nœuds, alors ça peut être les nœuds bondage de Fifty Shades of Grey, mais les nœuds qui lient ces trois femmes dans un sens au sens de la captivité, vont pouvoir être dénoués par un texte, et que justement, ce dénouement, c'est qu'à un moment, il faut dire adieu aux revenantes, il faut dire adieu à cette histoire-là, qui est une histoire morbide, pour aller vers retrouver le sens même de ce livre, c'est-à-dire une recherche de la liberté de ces trois héroïnes, et puis la liberté de chaque lecteur qui continue à la chercher et qui la trouve aussi beaucoup en lisant des livres. Je pense que la littérature est un outil très concret de libération pour moi. Enfin, c'est comme ça que j'ai toujours vu. Je l'ai exercé pour moi-même, mais j'ai continué à l'exercer ensuite en écrivant, et je vois bien qu'il s'exerce aussi pour les lecteurs.
Alors, il y a quand même des livres. Il y a un livre sur le cinéma qu'on pourra peut-être déconseiller, c'est Hollywood Babylon, ou Babylon Hollywood.
Déconseiller ?
Ouais, de Kenneth Anger.
Ah, j'adore ce livre, moi.
C'est un tabloïd, ce truc, c'est... non ?
Non, moi je trouve que c'est un grand livre. J'y ai beaucoup pensé en écrivant Trois femmes disparaissent, et j'aime beaucoup les films de Kenneth Anger. Il est allé fouiller dans les poubelles d'Hollywood, c'est vrai, bon, ce que moi je fais pas exactement, quoique bon, Kenneth Anger était dans un coin de ma tête, mais il fallait fouiller dans les poubelles d'Hollywood, parce que derrière il fallait gratter sous le glamour pour trouver les vraies histoires. Donc il a joué lui-même en son temps un grand rôle d'enquêteur dans ces deux volumes, et moi c'est un texte que j'aime vraiment beaucoup.
Ah oui, moi j'ai eu un rejet. J'ai eu vraiment l'impression que ça cultivait un rapport malsain avec le pire d'Hollywood, tout simplement. Et donc un film sort en ce moment qui en est inspiré, je pense.
Qui est très en deçà de ce que dit, qui est très, très lisse par rapport à ce que raconte Kenneth Anger. Le film actuellement, Babylon.
Oui. D'accord, très bien. Bon, ben, surprise, alors il faudrait que j'essaie de relire Kenneth Anger, alors.
Mais c'est important de comprendre ce qu'il y a derrière, ce qui est aussi un outil de promotion du capitalisme, c'est-à-dire le cinéma hollywoodien. Donc pour ça, il faut fouiller dans les poubelles, il ne faut pas en rester aux robes dorées, aux faux mariages, à tout ce qui est caché, 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 et qui continue à l'être. Donc il a fait ce travail-là, et pour ça, moi, je lui en sais vraiment gré. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué.
Bien, merci beaucoup Hélène Frappa pour ce livre et cette magnifique interview. Donc, Trois femmes disparaissent. Alors moi, j'ai adoré. Voilà, donc un prochain livre est en cours d'écriture.
Oui, c'est un livre au fond plutôt un essai, mais qui part de, j'ai du mal à en parler encore parce que je suis encore dans l'élaboration, qui va faire un diptyque avec Trois femmes disparaissent, mais sous une forme plus théorique, disons, le prochain.
Très bien, ben merci beaucoup. On va se quitter sur une magnifique chanson qui s'appelle Hollywood. C'est un duo de Brigitte Fontaine avec Christophe, qui dure un petit peu longtemps. Je ne sais pas si à l'émission on pourra l'écouter en entier. Donc je vous dis à très bientôt, chers auditeurs. Et puis à bientôt peut-être, Hélène.
Ben, j'espère.
Au revoir.
Merci.
Cherche la porte dorée dans des palais désorienté. Je porte la robe vermeille des divinités du soleil. Je tourne aveuglé dans des salles d'enseignes ouvertes en dédale. J'entends se déclencher des fêtes et des chansons sans queue ni tête. Comme après un feu de diamant, tout est fini quand je descends. Je bondis vers des ruisseaux d'or qui coulent parmi mes décors. Je tombe sur un lupanar de boîtes vides. Hollywood est un arc-en-ciel, un immense arbre de Noël. Sa splendeur couvre l'horizon d'un incendie rose bonbon. Des macho girls et des faux anges s'unissent à des bêtes étranges. Sur des grands écrans vidéo qui tapissent les lavabos, des poupées Barbie alcooliques prennent les cuites avec les flics. Dans des bars aux miroirs cruels, blanc comme des neiges éternelles, des cracheurs de feu amateurs, milliardaires à faire mal au cœur. Offre des slips, offre des yaks à des impresarios cardiaques et des garbos rafistolés près le désert. Hollywood est un arc-en-ciel, un immense arbre de Noël. Sa splendeur couvre l'horizon d'un incendie rose bonbon. Tenues noires et fardées présentent des plats parfumés. Mais quand je vais pour les manger, il n'y a que cailloux gelés.
Tous les jours, un amant m'appelle sur des lits de satin bleu ciel. Si j'approche, il n'y a qu'un corps. Le sanglier mort ou le porc. Et je chancelle et je chavire dans cette espèce de délire.
De spots de bijoux fluo, de vertigo et de light show. Moi qui veux la porte dorée qui conduit à l'éternité. Hollywood est un arc-en-ciel, un immense arbre de Noël. Sa splendeur couvre l'horizon d'un incendie rose bonbon. D'un incendie rose bonbon.
Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération Anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.